qui est intéressant au niveau de la facilitation, c'est que c'est un aspect qui va être de plus en plus présent. Parce que la facilitation, c'est finalement la mise en exergue de plusieurs qualités et aptitudes et de compétences savoir-être et relationnelles bien spécifiques qui vont être de plus en plus demandées. Je pense que la principale difficulté, c'est la peur personnelle de mal faire. C'est la principale. La peur de mal faire, c'est là, ouais, c'est un vrai frein, et la peur du regard de l'autre. En fait, c'est pas tant à chaque fois qu'on fait des formations, c'est pas tant sur l'acquisition des outils, etc. C'est plutôt des freins personnels en fait à se lancer dans la facilitation après.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 28e épisode du podcast Les Intelligences Collectives, le podcast qui part à la recherche des clés du mieux faire et vivre ensemble. Je suis Sophie Franz et j'accompagne mes clients à l'élaboration de stratégies de développement en impliquant toujours les équipes et collaborateurs. D'où cette réflexion avec vous sur l'émergence de nos intelligences collectives. Je reçois aujourd'hui Fabien Schmitt, cofondateur de l'association Active Action. Leur devise : ensemble, transformer le chômage en une expérience constructive. Je suis fan de leur travail, vous le remarquerez rapidement. J'ai invité Fabien pour vous parler de cette association et surtout des formations qu'il donne pour apprendre à faciliter un groupe. C'est un sujet qui revient très souvent, la facilitation, dans mes échanges avec vous, chers auditeurs et auditrices. J'ai voulu vous proposer un épisode qui devrait vous permettre de faire vos premiers pas de facilitateur et j'ai pensé que Fabien était l'invité parfait pour nous aider dans cette démarche. J'espère que cet épisode vous aidera à lever certains freins, à incarner une posture alignée, à comprendre l'importance du mimétisme et du rapport empathique. C'est de tout cela dont Fabien nous parle dans cet épisode. Merci à toi pour ces superbes pépites. Je vous souhaite une belle écoute en remerciant vivement tous ceux qui me laissent des avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup, n'hésitez pas à continuer à le faire. Merci. Bonjour à toi.
Bonjour Sophie.
Comme je t'expliquais, je commence toujours mes interviews par un petit temps d'inclusion sonore qui nous permet en fait de nous poser et de mieux te connaître. Donc je vais te proposer 3 sons et j'aimerais bien que tu en choisisses un des 3 et que tu nous dises quelque chose sur toi, positif, négatif, que tu aimes, que tu n'aimes pas, un truc que tu as envie de partager sur toi.
Ok, ça marche. Avec plaisir.
Attention, c'est parti. Son numéro 1. Son numéro 2. Et son numéro 3. Du coup, est-ce que tu peux nous partager quelque chose sur toi en choisissant un de ces 3 sons? C'est possible.
Alors, il y avait soit une cloche. Alors, bizarrement, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le tout dernier.
Le tout dernier.
Ouais, où c'est la personne qui crie. Pourquoi celui-là? Alors, je l'ai pris tout de suite parce que c'est bientôt Halloween et moi, je suis un amateur de sensations fortes et notamment je suis un passionné aussi de films d'horreur. Je suis quelqu'un de gentil, hein, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai tout de suite pris ce son-là parce que c'est pour l'adrénaline en fait que ça génère. C'est pour ça que j'aime bien ça.
Les films d'horreur, c'est ça.
Ouais. Après, en fait, tout ce qui peut procurer un peu de sensations de ce type-là et des montées d'adrénaline, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pour ça que par exemple je suis un passionné de plongée sous-marine. Alors du coup ça n'a plus rien à voir avec les films d'horreur, mais comme je suis un passionné de plongée sous-marine, c'est aussi cet aspect là justement de recherche un peu d'adrénaline aussi, etc.
Donc, génial, voilà. Super, bah écoute, sympa. T'es un gentil mais t'aimes bien les petits boosts d'adrénaline.
Exactement.
Super. On va parler de Active Action. Est-ce que justement par rapport à cette adrénaline, est-ce qu'il y a un lien? Comment est-ce qu'est née Active Action? Et quelle est un peu la mission?
Ouais, c'est vrai que forcément il y a un lien parce que c'est une aventure assez incroyable, et même de se lancer un peu dans l'entrepreneuriat social, ça réserve aussi sa dose d'adrénaline parce qu'on saute parfois dans l'inconnu. Mais pour présenter Activaction, donc Activaction, c'est effectivement une association qu'on a créée en 2014. On est trois cofondateurs avec Émilie et Pauline, et c'est une structure qu'on a créée durant nos périodes notre période de chômage. On a connu plusieurs périodes de recherche d'emploi, les trois cofondateurs,
D'accord.
et on a pu ressentir en fait cet aspect-là de perte de confiance, de dévalorisation, d'isolement, donc des choses qui ne sont pas forcément hyper positives. Et on avait vraiment cette volonté de ne pas se résigner en fait face à cet effet-là, en fait. Et donc Activaction, c'est cette volonté-là, c'est de voir et de vivre complètement différemment une période de transition professionnelle. Pour plus que ce soit quelque chose de stigmatisant, mais aussi de déstructurant ou autre, mais que ça puisse être une période durant laquelle on peut continuer à rencontrer de nouvelles personnes, on peut continuer à développer ses compétences, on peut agir également concrètement dans la réalisation de ses projets, qu'ils soient perso ou pro. Et en tout cas, c'est de remettre cette notion-là d'action au cœur de cette période-là pour qu'on puisse aller au-delà de ces risques psychosociaux, au-delà de ces freins qui empêchent la réalisation de son projet professionnel, personnel, etc. Donc,
D'accord.
Activaction, c'est vraiment cette volonté-là.
Ok. Et du coup, je regardais un peu ton à-propos. Tu disais ta conviction, c'est que tout le monde est capable d'animer, mais aussi voilà, de faciliter, comment est-ce que tu vas aider ces gens qui sont en recherche d'emploi, justement, peut-être à s'affirmer hein. Comment est-ce que tu as pensé le truc hein?
Ce qui a été important et ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'en fait, que chaque personne en fait a sa place dans un groupe et chaque personne a sa place dans la société. Peu importe son passé, peu importe ce qu'il a fait, peu importe son expérience, à un moment donné, on a tous la possibilité de pouvoir bénéficier aussi des apports du groupe et de rendre au groupe au retour.
Donc ça, c'est le point de départ. Tu étais vraiment déjà habité par cette conviction.
Dès le
Ou est-ce que c'est
début.
venu après? D'accord,
Non,
ok.
dès le début. Ça a
Ok.
été, c'est dans l'ADN même d'Activaction, dès le début. C'est de montrer que, même si initialement on a l'impression qu'on n'a pas soit l'expérience dans tel ou tel domaine, on peut quand même faire des choses. Nous-mêmes, quand on a commencé à créer Activaction, je veux dire, on n'est pas du tout issu du monde des RH, psychologues. On n'a pas de grandes études ou autres, on n'a pas fait de formation spécifique là-dedans, etc., etc. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas la possibilité en fait de faire les choses.
Oui.
Et donc c'est ça, voilà, c'est dans l'ADN d'Activaction dès le début. Et ce qui est dans l'ADN d'Activaction dès le début, c'est l'importance du groupe, du collectif et du collaboratif. On ne fait jamais rien en individuel, on ne fait que en collectif et collaboratif. Il y a plusieurs raisons à cela. On croit beaucoup au pouvoir de la diversité. On croit énormément en fait au pouvoir de la mixité des profils qui est une source d'apprentissage absolument extraordinaire et infinie. Et c'est de pouvoir le mettre finalement à chaque action qu'on va proposer, que ce soit durant des ateliers, que ce soit durant des événements, que ce soit durant des moments de formation aussi. Et donc
Super.
plus en fait on était dans cet aspect-là et plus on se rendait compte en fait que la nécessité de mettre un cadre suffisamment de sécurisant et de confiance va être au cœur de la création de la dynamique collaborative. Et donc, c'est toutes ces réflexions-là qui ont pu s'affirmer au fur et à mesure et qu'on a pu développer une expertise en fait à ce niveau-là. Comment, dans un cadre en fait où on a une diversité de profils hyper large, donc des personnes plus jeunes avec des personnes un petit peu moins jeunes, des personnes qui n'ont pas de diplôme avec des personnes très diplômées, des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations personnelles ou professionnelles, puissent à un moment donné partager un temps collectif et qui soit bénéfique pour tous. Et donc du coup, au niveau notamment de la posture, qui est finalement un outil collaboratif qui va être central. Donc au-delà en fait de savoir comment on va le faire, c'est de savoir pourquoi on va le faire. Et c'est de pouvoir identifier aussi le mimétisme que j'ai envie de provoquer et que j'ai envie de générer en fait chez les autres pour que du coup la dynamique de groupe puisse se mettre en place.
D'accord. Du coup, l'idée, c'est vraiment de créer un moment où tu partages. Et là où tu mets le doigt sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est vous créez ce moment de partage grâce à un cadre, etc. Mais tu permets aussi à tout le monde d'animer ou de faciliter ce moment. Et là, c'est là où tu rentres peut-être avec un peu, j'irais, des astuces ou des techniques avec le mimétisme, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça le parce que, alors, je te dis pourquoi je dis ça. Moi, j'ai rencontré en 2017 quand vous, je pense, vous démarriez. Vous avez démarré quand ?
En 2014.
2014, d'accord. Oui. Du coup, en 2017, à Lille, j'ai rencontré une personne, tu vois, qui n'avait pas l'air super sûre d'elle, etc., un demandeur d'emploi. Et moi, j'étais aussi un peu en reconversion, je réfléchissais à ça.
François,
voilà. Ah, tu t'en souviens ? Et du coup, et il m'explique qu'il animait des ateliers et que ça lui avait donné confiance en lui. Et moi, je me suis dit, waouh, mais c'est génial ça. Et moi, à ce moment-là, tu vois, je ne sais pas si j'étais capable de le faire ou pas. Et j'ai l'impression que c'est vraiment votre ADN, ouais, c'est de ça, c'est de redonner et de permettre à tout le monde de faciliter et d'animer.
Complètement. C'est génial, ça. Notamment dans parce qu'au sein d'ActiAction, on a plusieurs activités, il y en a plusieurs axes aussi d'action aussi. Et une des possibilités, c'est effectivement, on organise des ateliers un peu partout en France aujourd'hui, hein, dans plus d'une vingtaine de villes. Pas uniquement en Alsace, mais aussi.
Oui, parce qu'on est tous les deux alsaciens, c'est vrai.
Oui, tout à fait. et ça, c'est une porte d'entrée. Et ensuite, on veut donner la possibilité de continuer à expérimenter en fait des choses. Donc, ActiAction, c'est surtout un énorme terrain en fait d'expérimentation qui est complètement libre. Ce qu'on a envie d'expérimenter, on donne la possibilité de l'expérimenter. Et le fait d'animer et de faciliter en fait les ateliers est un des axes d'expérimentation possibles. Donc, on met en place à chaque fois un parcours de formation qui est spécifique pour les active acteurs, qu'on appelle. Donc, c'est toutes les personnes qui participent à un atelier, deviennent active acteurs ou active actrices. Il n'y a rien à signer, hein, je rassure tout de suite. Et on donne la possibilité aux personnes de se dire, OK, ça me tente, même si je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça me tente, pas de problème. Et donc, on a un parcours de formation spécifique qui inclut aussi dedans des temps de co-animation, ce qui fait que du coup, on garde toujours ce côté sécurisant. Les personnes ne sont jamais tout seules pour justement animer ces ateliers-là. On veut permettre à chaque fois les opportunités qui permettent de développer les compétences, mais aussi valoriser en fait l'engagement des uns et des autres pour continuer cet aspect hyper valorisant, quoi. Et François est justement l'exemple même. Et après, il y a encore d'autres aspects aujourd'hui qu'on met en place où on propose des modules de formation spécifiques qui sont ouverts même à des professionnels, parce qu'on intervient énormément aujourd'hui au sein de structures partenaires, des structures d'insertion socio-professionnelle, au sein d'entreprises, etc.
J'ai vu ça.
Sur cette thématique-là, qui donne la possibilité de monter en compétence sur ce sujet de facilitation et comment finalement être dans un... En fait, faciliter et renforcer la construction d'un groupe inclusif.
Ouais, j'ai vu, vous avez... Enfin, par rapport à quand je vous ai connu et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont rajoutées.
Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions.
C'est génial. Oui. Je vais revenir un petit peu à l'ADN, comme tu dis. Oui. Quelqu'un qui débute, j'ai vraiment envie de comprendre un peu et d'aider les auditeurs avec justement une personne qui a envie de débuter dans la facilitation. Je sais qu'il y a une formation que vous avez, donc vraiment axée sur ça. Il y a quoi dedans et comment est-ce qu'on peut faire pour débuter Est-ce qu'il y a des premières choses à faire ou à ne pas faire?
Alors, au niveau de la formation, et effectivement, c'est vraiment le fait de rentrer dans ce principe-là de facilitation. Nous, on insiste beaucoup sur cette notion de posture et là, en fait, le temps réflexif qui est nécessaire pour incarner cette posture de facilitation. En gros, c'est
le
vraiment...
Le temps réflexif, c'est ça, hein ?
Ouais, tout à fait. Vas-y. C'est définir en fait le pourquoi. Et c'est aussi la raison d'être. Alors, pas notre propre raison d'être, etc. Mais c'est le pourquoi, en fait, de, pourquoi ce temps collectif? Pourquoi, en fait, ce temps de facilitation, etc. Et la définition de cet aspect-là, on utilise beaucoup d'outils par rapport à ça, comme les principes de cercle d'or, etc. Donc, des principes qui ont été mis en avant, notamment par des personnes comme Simon Sinek, mais qui initialement, des outils qui sont très axés pour la communication, mais nous, on les a orientés, on les a aussi adapté sur les sujets de la facilitation pour bien identifier en fait le pourquoi on a envie d'intervenir, ça va avoir un impact direct sur notre propre posture. Mmh. Et ensuite, on identifie aussi les mécanismes de relations de confiance qui vont s'inscrire avec les personnes. Qu'est-ce qui fait en fait qu'une relation de confiance puisse se mettre en place avec d'autres personnes? Et ça passe justement par le rapport empathique. Ça passe justement aussi par l'effet de mimétisme. On croit énormément à cet effet de mimétisme. Il y a mimétisme qui est inconscient, le mimétisme émotionnel, le mimétisme inconscient qui se met en place dans toute relation. Et donc, du coup, c'est de pouvoir essayer d'identifier quelle image j'ai aussi envie de transmettre pour que, du coup, je puisse aussi transmettre le cadre que je mets en place dans un atelier.
Alors, donc, je me souviens bien de cette forme, c'était un angle, j'avais suivi ta formation et je trouvais que c'est un angle qui était super intéressant, le mimétisme, comme tu dis. Je vais juste revenir encore sur le pourquoi, parce que j'ai des auditeurs qui me disent justement, tu vois, comment est-ce que je débute un... comment est-ce que je débute un atelier, d'accord? Première question que je te poserai, la différence pour toi entre faciliter et animer avec ce pourquoi, est-ce que tu peux, est-ce que tu as une piste là-dessus?
Pour moi, le facilitateur n'est pas là pour apporter de l'information. Souvent, l'image qu'on peut avoir d'un animateur, c'est celui qui va aussi avoir un cadre et qui va être là aussi pour transmettre des éléments. Ce qui est très bien, hein. C'est pas du tout, y a pas de choses qui sont bonnes ou moins bonnes. Mais pour moi, le facilitateur, ça va être aussi la personne qui va être là pour incarner un certain nombre de rôles qui vont faciliter les échanges d'informations entre les participants. Mais lui ne va apporter à aucun moment, en fait, un jugement, une interprétation de cette information-là. Il est là pour faire en sorte que l'information puisse se transmettre d'une manière la plus efficiente possible à l'ensemble du groupe, pour que du coup toute information ait son importance et son sens et puisse être utilisée par tous les participants en fait d'une même équipe. Donc pour moi, le facilitateur, en fait, il est là pour ça. Et donc du coup, son rôle à lui, ça va être surtout de mettre en place un cadre, encore une fois, de sécurité et de confiance suffisamment fort pour que justement toute personne ait la possibilité de transmettre une information et que cette information soit comprise et entendue par tous les autres membres du groupe. Pour moi, le facilitateur, en fait, il est là. Mais il ne va pas forcément être là pour transmettre une information, juger l'information, interpréter l'information.
D'accord. Et du coup, c'est vraiment le cadre chez vous, chez toi ou chez vous plutôt, c'est la posture.
Tout à fait. Et au-delà même des outils.
Ouais, voilà. Parce que souvent, on voit, tu sais, les chartes, les cadres, un peu les posters qui fait. D'accord. Mais chez vous, et vous l'utilisez aussi ou tu es resté vraiment sur cet axe posture?
Il y a aussi ces aspects-là, mais comme tout outil, c'est pas l'outil qui fait la force de choses, c'est la manière dont on va utiliser cet outil-là. Okay. Et donc, du coup, c'est, on axe beaucoup sur cet aspect-là.
Sur l'aspect posture, excuse-moi, c'est ça?
Oui, tout à fait. Sur l'aspect posture, parce que c'est ça qui va faire, je pense en tout cas, une facilitation la plus fine possible. Et ce que j'appelle en fait une facilitation fine, ça va être un facilitateur qui va avoir la capacité en fait d'adapter en temps réel son intervention en fonction des besoins qu'il va observer. Recevoir des besoins qui peuvent être exprimés par le groupe, mais des besoins aussi que lui peut observer. Et en fonction de ces besoins-là, il doit avoir la capacité en fait de pouvoir adapter l'intégralité de son contenu. Ce qui fait à mon avis aussi la différence entre pas mal de choses, quoi, entre même un animateur ou autre. Encore une fois, ça, c'est pas du tout soit une critique c'est une approche pédagogique. Mais c'est vrai que la facilitation doit pouvoir avoir cet aspect-là et la finesse de facilitateur doit pouvoir avoir cet aspect-là. C'est qu'au final, c'est pour ça qu'il y a aussi cette importance de travailler la confiance également, mais pas uniquement en soi, mais la confiance aussi dans l'impact de ses propres outils pour que du coup, on puisse avoir toute une besace avec une palette d'outils à l'intérieur qu'on doit pouvoir utiliser à n'importe quel moment parce qu'on se rend compte qu'au niveau de la dynamique du groupe, le besoin exprimé ou observé va être sur tel ou tel aspect. Et donc, du coup, je réponds à ce besoin-là par rapport à ça.
Alors, je vais revenir aux outils après. J'aimerais revenir à leur posture, j'ai bien compris. C'est quelque chose qui est crucial dans votre cette idée de facilitation. Mimétisme, est-ce que tu peux nous expliquer ça peut-être avec des exemples? Je me souviens d'un ou deux exemples que tu avais donné et c'était super intéressant. Qu'est-ce que vous appelez ce mimétisme?
Le mimétisme, c'est la reproduction en fait, de comportements, voire parfois d'émotions au sein du groupe. C'est des choses aujourd'hui qui sont prouvées et justement tu me demandais aussi une ressource soit littéraire ou autre. Moi j'invite effectivement à lire le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle qui décrit bien l'ensemble des études sur ces sujets-là. Au niveau de cet effet de mimétisme-là, un exemple tout bête, hein. S'il y a quelqu'un en face de nous qui est par exemple en colère, d'une manière complètement inconsciente, il va même y avoir une reproduction de cette émotion-là d'un point de vue musculaire. C'est-à-dire que sur notre visage, on va avoir des micro-contractions musculaires qui font que du coup, on a une reproduction de l'émotion qui est de la personne qui est en face de nous. Et c'est complètement inconscient. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette transmission de cet aspect-là. Et ce qui est important, c'est de le prendre en considération pour que du coup, on puisse également se dire quel mimétisme, en fait, j'ai envie de pouvoir provoquer. Et ce mimétisme-là, bien souvent, il doit être en lien avec les valeurs qu'on a envie de transmettre dans le cadre de l'atelier ou du temps collectif et collaboratif qu'on a envie de mettre en place. Donc, c'est de pouvoir effectivement définir ces valeurs-là, mais d'une manière encore plus concrète, quelles sont les attitudes qui sont liées à l'incarnation, en fait, du coup, de ces valeurs-là. Pour que je sois en cohérence totale. Je donne aussi un exemple tout bête, mais on pense souvent et on dit souvent qu'un atelier collectif, collaboratif, c'est un espace d'expression. Et c'est souvent le cadre qui est avancé dans moult moments collectifs et collaboratifs. Mais si on évoque juste ça, si on creuse cette idée, ça veut dire que toute expression à son poids et à son sens, que cette expression soit positive ou négative. Ce qui fait que du coup, le facilitateur qui est présent ici ne doit pas soit être surpris ou ne doit pas être dans une interprétation d'information par rapport à une information qui va être donnée. Donc si on a un participant pour X raisons qui, à un moment donné, va dire quelque chose qui, de prime abord, peut paraître soit très challengeant ou un petit peu corrosif, négatif, ce que vous voulez, et bien du coup, le facilitateur doit pouvoir prendre cette information-là sans qu'il soit déstabilisé par rapport à cet aspect-là, parce que c'est un espace d'expression. On n'a pas précisé que c'est un espace d'expression positif, sinon il faut préciser ce cadre-là, et ça peut le faire, et ça peut tout à fait l'être. Mais donc du coup, c'est d'amener en fait cette réflexion-là. C'est-à-dire, si je mets en avant des valeurs et un système de valeurs, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans le détail, en termes d'attitude et de comportement, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, pour que du coup le cadre soit le plus clair possible. Si ce cadre est extrêmement clair, et bien du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à l'incarner, et donc du coup, parce que je l'incarne, je le transmets, parce que mon attitude se transmet. Et donc, c'est d'identifier cet aspect.
Du coup, oui, c'est le départ de la réflexion, la valeur. Je pose tout ça, et du coup, j'essaye d'avoir une posture incarnée par rapport à cet axe réflexif et cette valeur. Alors, je pense que c'est pas si facile que ça. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions à ce moment-là? Comment est-ce qu'on les gère? Et je me posais une question par rapport à ces temps d'inclusion, justement, où on nous invite à être authentiques. Et j'imagine un facilitateur qui arrive avec une mauvaise journée, peut-être qui est une mauvaise journée, qui n'a pas l'énergie. Comment il fait après pour avoir cette posture
Bien sûr, on est tous humains, il y a des moments où c'est pas le bon jour, etc., etc. C'est sûr qu'un facilitateur, une des compétences premières du facilitateur, c'est la gestion des émotions. Pour être notamment quand on va assez loin dans la facilitation, c'est la gestion des émotions. C'est d'être capable, en fait, à un moment donné, je rentre dans un atelier, dans un cadre, je suis focus, en fait, uniquement dans ce cadre-là. Et donc, du coup, je prends la distance par rapport à ce que j'ai pu vivre juste avant ce cadre-là, parce que c'est des temps qui sont complètement différents. Et à un moment donné, un des rôles du facilitateur, qui est le gardien, en fait, notamment de la sécurité, doit pouvoir se dire, dans ce cadre-là, le cadre de fonctionnement de l'équipe est telle ou telle valeur. Donc, je les incarne, en fait, à ce moment-là donné. C'est-à-dire que, du coup, dans ce cadre, je deviens non pas Fabien Schmitt, mais je deviens Fabien d'Activaction, en fait. Donc, ce n'est pas une autre personnalité ou autre, c'est juste que, du coup, à un moment donné, je vais, en fait, me positionner par rapport à ce que je représente à cet instant-là donné. Ça nécessite, effectivement, une prise de recul, ça nécessite également une gestion des émotions. Très clairement. Alors, comment on fait pour justement faciliter cette gestion des émotions-là? Je pense qu'en fait, il y a un outil qu'on utilise aussi beaucoup, qui est le principe du rapport empathique. On voit souvent l'empathie comme l'aptitude, ou en tout cas la capacité à ressentir les émotions des personnes qui sont en face de nous, ce qui est aussi très juste, ce qui est très vrai. Mais il y a aussi un aspect dans le rapport empathique qui est très intéressant, qui est l'anticipation en fait, de l'émotion que je peux générer aussi chez les autres. Donc, ce qui nécessite aussi une grande connaissance de soi. Et cette connaissance de soi permet en fait de générer des hypothèses d'impact qu'on va avoir chez les personnes en face de nous. En gros, moi, si je sais que je suis en colère, je réagis de telle ou telle manière. Donc, d'accord, potentiellement, c'est un aspect que je peux transmettre chez d'autres personnes si je l'incarne et si je l'ai. En fait. Et donc, cette conscientisation, en fait, notamment de ses propres émotions et de ses propres, finalement, comportements, permet en fait une capacité d'adaptation dans un moment précis. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, tu es clair. Et du coup, c'est quoi ? C'est, c'est du dev perso ? Comment est-ce qu'on arrive à conscientiser, à gérer ça ?
Je pense que c'est beaucoup de temps de réflexion. Il y a aussi des outils qui sont spécifiques. Je ne sais pas si ça fait partie du développement personnel ou autre. C'est des aspects... moi, j'ai un positionnement assez clair là-dessus. Enfin, je ne pense pas faire de développement personnel, etc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature sur ces sujets. Il y a beaucoup d'études scientifiques aussi sur ces sujets, parce que c'est de plus en plus étudié d'un point de vue neuroscientifique, etc. Et donc, c'est très intéressant. Surtout, je pense que le collectif permet aussi d'apporter des éléments de réponse, parce que c'est aussi quand on a des temps de réflexion avec les autres qu'on arrive parfois à bien identifier ces aspects-là. En fait.
D'accord.
Et surtout, après, c'est l'expérience. C'est le fait d'aller sur le terrain et de faire. Okay. Et qui est aussi le meilleur moyen, donc, cet apprentissage à ce niveau-là.
C'est clair. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez, j'ai envie de dire, je reprends ce terme parce que voilà, des demandeurs d'emploi que vous avez formés à la facilitation et où tu te rends compte qu'il y a peut-être un profil de personne où ça ne colle pas. Alors, demandeur d'emploi ou autre, hein, bien sûr, mais je veux dire, est-ce qu'à un moment, il y a un profil où on se dit, non, là, c'est vraiment compliqué quand même ?
Non.
Non,
ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça ne vous est jamais arrivé de se dire là, ça colle pas, là, ça marche pas, etc. Parce que de toute façon, et notamment dans le processus et le parcours de formation que l'on a, on prend aussi beaucoup de temps, notamment en co-animation.
D'accord.
Donc, de toute façon, les personnes ne sont jamais seules. Et bien souvent, il y a des personnes qui veulent continuer en co-animation. On donne tout à fait cette liberté-là. Donc voilà, mais après, comme on insiste aussi énormément sur la posture et sur notamment là où on peut aller, là où on ne peut pas aller, ou les effets aussi de certains aspects, etc., on n'a jamais été confronté en fait à des personnes qui en fait font pas.
Qui rentre pas dans le
ça, entre guillemets, surtout qu'on laisse un espace d'expérimentation et donc non, en tout cas c'est.
Et les difficultés quand on démarre, c'est quoi par rapport à cette posture ?
Je pense que la principale difficulté, c'est, j'en vois plusieurs, c'est la peur personnelle de mal faire.
La peur de mal faire, ouais, j'imagine que c'est un vrai frein, ça.
Oui, c'est un vrai frein, et qui, je pense, en fait, est la principale difficulté, et la peur du regard de l'autre. En fait, c'est pas tant, à chaque fois qu'on fait des formations, c'est pas tant sur... l'acquisition des outils, etc., c'est plutôt des freins personnels, en fait, à se lancer dans la facilitation après, en disant, en fait, c'est un peu des mécanismes un peu d'auto-dévalorisation, quoi. Mais qui sont tout à fait compréhensibles, puisqu'on se lance dans quelque chose de nouveau. Donc, forcément, la nouveauté, on sort de sa zone de confort, ça fait jamais du bien, entre guillemets, au début. Mais c'est les principaux freins, en fait, qu'il y a, et qui s'estompe très rapidement une fois qu'on commence à prendre le plaisir qu'il y a sur le terrain, justement, quoi.
Super.
Donc voilà.
Est-ce que tu peux nous donner quelques outils dans ta besace, dans la besace du facilitateur débutant, enfin voilà, qui arrive à sortir de sa zone de confort et qui se dit je vais essayer d'animer un moment collectif?
Alors, ça dépend de quoi on parle.
Ouais.
Soit on parle de l'aspect préparation et comment on se prépare à être facilitateur et dans le développement en fait des qualités et des compétences facilitateurs, ou alors les outils entre guillemets terrain qu'on peut utiliser durant des temps de facilitation.
Uh-huh.
Moi, c'est deux choses différentes.
Je pensais ma question était tournée vers les outils terrain durant le temps, mais les deux m'intéressent.
D'accord.
On va rester sur les outils terrain.
D'accord. Donc sur les outils terrain durant un temps de facilitation, bon, il y a toujours en fait c'est notre approche, hein, c'est pas une vérité en soi, on ne présente jamais les choses comme étant une vérité en soi, c'est toujours notre approche par rapport à, parce que c'est toujours de l'expérientiel, hein, donc c'est par rapport à ce que nous on a vécu terrain. On constitue toujours chaque activité durant un temps collectif en quatre parties avec un temps d'introduction, l'introduction qui a pour but en fait de clarifier le pourquoi en fait on fait cette activité-là, l'activité en tant que telle, le temps de conclusion pour valoriser les apprentissages qu'il y a derrière et un temps de transition systématiquement, la transition pour apporter de la fluidité dans l'intégralité de son animation.
Le transition c'est après ou est-ce que...
Tout dépend où on en est dans son atelier, mais en tout cas dans la structuration de son activité et de son atelier, en fait on le constitue toujours un peu de cette manière-là. Si on part de la toute première activité, il y a toujours le temps de transition en fait à la fin vers l'activité suivante, etc. Mais
d'accord,
il faut
bien
l'identifier.
Ok.
Et donc du coup, notamment au niveau d'un début d'atelier, par exemple, etc. Ce qui va être important, c'est de mettre les piliers qui favorisent la relation de confiance et l'espace de confiance. Et le check-in, donc la manière dont on rentre dans un atelier, va être aussi un moyen très important. Le but du check-in est aussi de pouvoir faciliter la rencontre entre l'ensemble des participants, mais aussi de donner la possibilité au groupe de pouvoir identifier comment chaque personne se sent au sein du groupe et surtout à l'instant T. Ça,
et là-dedans, tu mets aussi le facilitateur hein, par rapport à ce qu'on disait avant. Tu sais, cette...
Là, ça dépend de l'approche pédagogique qu'on a envie d'avoir. En fait, généralement, oui, facilitateur participe également parce qu'il fait partie du groupe. Il a un rôle un peu particulier dans le groupe, même okay. s'il précise ce rôle-là. Et donc, du coup, durant ce check-in, donc il y a plusieurs types de check-in différents. Le plus grand et le plus classique, entre guillemets, qui est tout le temps utilisé, qui est la météo. Hein, par exemple,
yes.
Mais c'est pas celui qu'on va le plus utiliser. Il y a par exemple un système de notation, c'est de noter de 1 à 7 comment on se sent d'un point de vue même physique, émotionnellement ou même au niveau de sa motivation.
Okay.
Pourquoi jusqu'à 7 ? Parce que du coup, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas 3,5 par exemple. C'est soit on est... Donc, voilà. L'autre aspect, après, il y a d'autres activités un peu de ce type-là, c'est de pouvoir prendre un post-it, de dessiner deux choses qui nous représentent et caractérisent, et ensuite de pouvoir le présenter aux autres en expliquant pourquoi on a dessiné aussi ces deux aspects-là. C'est une manière de se présenter aussi complètement différemment, sans devoir yes. prendre la parole systématiquement devant les autres, etc. etc. Un des aspects que nous, on met en place pour renforcer ce cadre de sécurité, c'est qu'on ne parle jamais d'emploi, par exemple, parce qu'on sait que si on aborde cette thématique-là dès le début, et ben, du coup, ça peut générer soit du stress et surtout un potentiel effet stigmatisant. Hein, cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, du coup,
c'est-à-dire, elle cherche un boulot de comptable ou de
Exactement. Voilà, c'est ça, moi, ça je ne suis pas du tout sur le même, secteur, ouais, même secteur d'activité. Donc, du coup, je vois pas pourquoi j'échangerais avec cette personne-là. Alors que si on met complètement cet aspect-là, de côté cet aspect-là, et ben, du coup, c'est une qualité de relation qui dit complètement différente, qui va s'installer. Donc, le facilitateur, c'est de pouvoir identifier dès le début, en fait, qu'est-ce qui va permettre le fait de sécuriser et de mettre en confiance, en fait, les personnes. Mais ce qui va être important pour le facilitateur, notamment au début, c'est de savoir quel est même son positionnement dans la salle. Ce qui va être intéressant, c'est que d'un point de vue relationnel, le facilitateur, au début, il est vu comme le sachant, systématiquement, qu'on le veuille ou non, en fait, mmh. ce qui est un effet complètement naturel. Et donc, son but va être de pouvoir créer une horizontalité aussi dans la relation, et ça, et ce, dès le début. Mais au début, ce qui va être important, c'est de garder ce côté sécurité et donc du coup de pouvoir à un moment donné avoir un positionnement et des positionnements dans la salle pour être dans le champ de vision de chaque participant parce qu'il représente ce cadre de sécurité en fait au début. Donc, okay. un atelier, il n'est pas transmis. Donc le fait de pouvoir à un moment donné se déplacer systématiquement pour qu'on puisse être dans le champ de vision de chaque participant, mm-hmm. ça renforce non seulement sa présence mais ça permet aussi de transmettre cet aspect sécurité. Ça permet de donner ce message-là de « vous inquiétez pas, en fait je suis là ». Je suis là
et je représente ce cadre-là. Ouais.
Exactement. Et ça, dès le début, ça va être important de pouvoir mettre ces bases-là. Entre autres, hein, parce qu'après, il y en a pléthore. Hein.
Ouais.
Mais voilà, c'est les premières choses qui me viennent un peu à l'esprit, comme ça, à chaud.
Et comment tu fais après pour... ce qui est intéressant, ce que tu dis est très juste, c'est que souvent, c'est, enfin, voilà, il est vu comme le sachant. Comment est-ce que tu arrives à cette horizontalité relationnelle dont tu parles ?
Alors, l'horizontalité parfaite n'existe pas non plus.
Okay.
Pour moi, en tout cas, un facilitateur, il ne pourra jamais être exactement au même niveau que les participants, selon moi. Hein. C'est pas encore une fois, c'est pas une vérité. La différence, c'est que justement, le facilitateur incarne un certain nombre de rôles qui, tant qu'ils ne sont pas conscientisés, verbalisés et transmis, il doit prendre la responsabilité de l'intégralité de ces rôles-là. Donc, ça va être... Justement, le gardien, ça peut être le gardien du temps. Donc, celui, alors c'est pas non uniquement la gestion du timing, mais ça va être aussi la gestion, par exemple, des temps de parole des uns et des autres. Mais comment gérer le temps de parole sans interrompre les uns et les autres ? Mais pour que, du coup, chacun ait un espace nécessaire au niveau de cette prise de parole. Donc, c'est aussi un peu cette complexité-là. Donc, là aussi, il y a des astuces, des techniques.
Je me souviens d'une formation, ouais. Tu disais poser. J'avais travaillé avec toi avec la ville de Mulhouse et oui. j'avais été assez frappée par justement cette importance de la posture. Oui. Et on avait la discussion sur comment on fait pour gérer une personne qui parle trop. Et juste en posant la main, je me souviens de toi qui nous montrait, bah, voilà, tu peux poser la main sur l'épaule et puis physiquement aussi réussir à voilà, à passer à autre chose, quoi. Et c'était vraiment intéressant.
Donc, ce qui est important, c'est que le facilitateur est un vecteur, en fait, de l'information. C'est celui qui va permettre la transmission de l'information aussi. Donc, en fonction de son positionnement dans la salle, il va pouvoir non seulement faciliter la transmission de cette information-là, mais aussi gérer cette information-là. Je prends un exemple très concret. C'est si une personne dans un groupe prend beaucoup la parole et monopolise la parole. Un des aspects qui va être intéressant, comme il est vu bien souvent comme le sachant, la personne qui va prendre beaucoup la parole va regarder le facilitateur. Quand il prend la parole, il va le regarder, ce qui arrive souvent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout en maintenant le regard avec ce participant, le facilitateur, s'il se déplace dans la salle d'une manière très lente, très douce, etc., du coup, il va garder cet échange de regard. Donc, le participant va continuer à le suivre. Et donc, du coup, d'une manière consciente et inconsciente, les deux, il va intégrer du regard chaque participant. Et lorsque, à un moment donné, le facilitateur, il va quitter son champ de vision, et bien celui qui prend la parole, il n'aura plus que d'autres choix que de regarder les autres participants. Ce qui va faire en sorte qu'à chaque moment, il sera quand même inclus dans le groupe, et ce n'est pas un échange entre moi et le participant, parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas mon rôle à moi. Mon rôle, c'est que le participant soit avec le groupe et il échange avec le groupe, pas uniquement avec moi, et pas avec moi, parce que moi, je suis pas là pour juger de son information et utiliser son information. C'est le groupe qui doit le faire. Et donc, du coup, mon déplacement dans la salle et la manière dont je vais me déplacer va permettre non seulement d'encadrer les échanges, mais aussi de m'assurer que la transmission de l'information se fasse dans le groupe et que la place de chaque personne soit bien dans le groupe et pas uniquement dans la relation avec moi.
Génial.
Et donc, c'est des éléments à prendre en compte dans un principe de facilitation.
Super. Alors, bien sûr, me vient la question de l'époque où on vit, du confinement, etc., en ligne. Tu gères ça comment parce que l'espace, c'est quelque chose de très important pour toi, le mimétisme et donc la posture. Est-ce qu'il y a une difficulté ou est-ce que finalement, ça se passe bien aussi en digital?
Ça se passe très bien en digital et ce qui a été très intéressant, c'est de voir que cet effet de mimétisme est également présent en digital. Et donc du coup au niveau de la posture du facilitateur, ça va être par contre d'insister sur certains aspects qui forcément sont plus présents qu'en présentiel. Le déplacement dans la salle, effectivement très compliqué.
D'accord.
Alors on se déplace chez soi, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, le mouvement quand même qu'on va avoir, la manière dont on va utiliser sa voix, la manière dont on va utiliser son intonation, la manière dont on va regarder également, vont être des vecteurs de mimétisme.
D'accord.
Et donc, c'est de pouvoir plus insister sur certains aspects, tout en paraissant le plus naturel possible, bien évidemment, et qui vont jouer sur la facilitation en tant que telle. Et ensuite, encore une fois, la manière dont on va définir le cadre de fonctionnement va permettre de renforcer cet aspect de facilitation.
Super.
Fait possible de faciliter en ligne et ça peut être même très puissant. On a été très surpris de la puissance de la facilitation qu'on peut avoir même en distanciel. Je donne un exemple très concret puisque on fait des interventions notamment en Belgique où le but est de pouvoir créer des groupes autonomes en 5 semaines. Donc en 5 semaines, dans son fonctionnement. Un groupe de personnes en recherche d'emploi qui ne se connaît pas du tout, issus d'horizons très divers. Et le but, c'est qu'en 5 semaines, ce groupe-là, dans son fonctionnement, dans son organisation, soit autonome. Et donc là, on est dans la facilitation pure. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas avoir un déroulé précis. Session 1, on fait ça. Session 2, on fait ça, etc. etc. Bien sûr, j'ai mes pistes, etc. Mais ce qui va être important, c'est à partir du moment où la raison d'être du groupe est identifiée, et du coup, de pouvoir s'adapter aux besoins en fait, du groupe.
D'accord.
Tout en transmettant à chaque fois des rôles, etc. Et tout se fait en distanciel. Et donc aujourd'hui, y a des groupes, ça fait plus d'un an en fait, qui se voient encore une fois par semaine, etc. Puisque le but de cette facilitation-là est de permettre la création d'un groupe autonome qui est capable de pouvoir utiliser les ressources dans son environnement pour la construction de son projet professionnel.
Ok. Il y a un facilitateur dans chaque groupe ou est-ce que c'est une facilitation tournante ou comment
non,
ça se passe?
Un facilitateur pour chaque groupe.
D'accord.
Donc, c'est le même facilitateur sur 5 semaines.
Ok. Ouais. C'est une sorte de mastermind, on pourrait appeler ça comme ça?
Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, parce que c'est une approche et une pédagogie qui a été créée spécifiquement.
Ok, la raison d'être, c'est quoi alors de ce groupe, juste que
Ça dépend de chaque groupe en fait, et c'est des activités qu'on va mettre en place pour bien identifier en fait cette raison d'être. On va utiliser des jeux autour du pourquoi, les cinq pourquoi, justement,
ouais.
pourquoi c'est important d'eux, le répéter en fait cinq fois pour bien identifier en fait l'impact qu'on a envie d'avoir ensemble.
Mais ça pourrait être quoi? Ça pourrait être ok, moi je suis demandeur d'emploi. Je veux intégrer ce groupe pour prendre confiance en moi ou
Ce qui va être intéressant, c'est que chaque personne va avoir initialement des raisons individuelles différentes de rejoindre un groupe, et c'est de pouvoir trouver un consensus à ce niveau-là. Et donc ça fait partie des premières étapes.
Et donc,
y a des groupes où, alors de mémoire, une des raisons d'être, ça va être d'avoir des échanges sereins pour partager des bonnes pratiques et permettre la réalisation de nos objectifs. Donc ça va être une raison d'être. Pour d'autres groupes, la raison d'être va être différente. Parfois, elle se rapproche, parfois elle va être différente. Mais le plus important, c'est que le groupe soit d'accord avec cette raison d'être-là. Donc, on va utiliser des outils au niveau de la méthode par consentement pour que la décision soit prise et acceptée par l'ensemble des participants.
Okay.
Et donc, on va utiliser des méthodologies un peu de ce type-là. Parce que le fait de bien définir cette raison d'être-là, ça va permettre de renforcer l'identité en fait, du groupe, et ce qui va permettre aussi de impacter et influencer la posture de chacun dans ce groupe-là. Parce que c'est un point en commun en fait, pour tout le monde. Si on a une vision commune, on sait pourquoi on est dedans. Et donc, du coup, ça renforce l'engagement et la motivation à aller dans ce groupe-là.
Et du coup, c'est là que vous, Active Action, vous avez un rôle un peu en méta-facilitation, j'ai envie de dire. Et après, chaque groupe devient autonome sur cette raison d'être. Et j'imagine qu'à terme, je ne sais pas si c'est possible, également sur, six semaines sont passées, on retravaille la raison d'être et peut-être qu'on repart sur un cursus de six semaines.
Se base sur là aussi des études qui ont été menées et sur un modèle en fait de vie de groupe qui est le modèle de Tuchman, donc un psychologue qui a justement étudié les étapes de vie de groupe, et le facilitateur a pour but d'accompagner ces différentes étapes de vie de groupe. L'étape de création, l'étape de tension, il y a toujours une étape de tension, mais c'est pour y répondre, l'étape de normalisation, d'exécution, et puis ensuite l'étape de dissolution. Il y a toujours une étape de dissolution à partir du moment où l'objectif en fait, du groupe est atteint. En fait.
Et quand tu dis le facilitateur, là tu penses à Active Action, ou c'est celui que vous avez formé en facilitation. D'accord,
ouais,
okay.
Génial. Tout à fait.
Ok, bah écoute, super, très intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter, des questions que j'ai pas, un point que j'ai peut-être pas, sur lequel j'ai pas appuyé, sur la posture de facilitateur, hein, qui serait important peut-être pour nos auditeurs.
Je crois que ce qui est intéressant au niveau de la facilitation, c'est que c'est un aspect qui va être de plus en plus présent aujourd'hui, pas uniquement dans des modes de fonctionnement comme le nôtre, etc. Mais je crois que même dans l'évolution des différentes organisations, même dans les temps en entreprise, les vies en entreprise, ce principe de facilitation va avoir une place de plus en plus importante. Parce que la facilitation, c'est finalement la mise en exergue de plusieurs qualités et aptitudes et de compétences savoir-être et relationnelles bien spécifiques qui vont être de plus en plus demandées. L'esprit collaboratif, le sens du compromis, l'écoute, mais savoir écouter aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait écouter ? C'est pas juste entendre ce que la personne dit, mais c'est aussi un traitement de l'information bien spécifique, une manière de traiter l'information avec neutralité, avec objectivité, etc. Et je crois qu'en fait, le fait de se lancer dans la facilitation, ou en tout cas de pouvoir monter en compétence sur ces aspects-là, c'est aussi se donner la possibilité d'avoir un impact aussi bien plus large que de la facilitation. En fait, c'est s'assurer de sa capacité d'adaptation au final. Et je pense que c'est un atout hyper important aujourd'hui.
Du coup, ça va au-delà à terme. Alors, j'ai dit demandeur d'emploi, mais on dit demandeur ou chercheur. Je ne sais plus comment on dit. Mais bon, c'est vrai que demandeur d'emploi, le terme est un peu bizarre. Mais
ouais,
je pense.
On utilise au sein d'Active Action des personnes en recherche d'emploi.
Recherche, ouais, c'est ce que je me disais. Là, je réfléchissais. J'ai dit plusieurs fois demandeur d'emploi, mais recherche d'emploi, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai répété ça.
Professionnelle.
Autant, voilà, tout à fait. Et ce que tu veux dire par là, ou ce que j'entends, c'est que en recherche, c'est votre, c'est une compétence qu'on va, grâce à vous, dans cette période de transition professionnelle, on va nourrir et peut-être voilà, faire grandir, mais que demain, dans l'entreprise où on sera, on travaillera, ou même dans sa propre entreprise, ouais, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est clé, quoi, c'est ça ?
Tout à fait. Tout à fait. Il y a même des... Aujourd'hui, on parle de manager facilitateur. D'ailleurs, ouais, c'est-à-dire que même dans la manière de manager, en fait, ces principes de facilitation sont présents.
D'accord.
Parce que la facilitation aussi, c'est aussi une manière de créer une relation de confiance bien spécifique avec les personnes qui sont en face de nous. Donc, c'est pour ça que ça va au-delà en fait d'une compétence d'animation. Je pense que c'est une opportunité pour développer des capacités et des compétences qui sont utiles en fait à plein de situations.
Et du coup, d'où votre switch aujourd'hui chez Active Action ? Est-ce que c'est un switch ou est-ce que c'est... Est-ce que
non.
Vous... Non, ok. Vous
non, êtes non, ce n'est pas, c'est pas un switch parce que ce sont des outils et des aspects qu'on utilise depuis la création. Et dans l'ADN d'Active Action, c'est de pouvoir transmettre ces méthodologies et les rendre les plus accessibles possibles au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que... aujourd'hui, Active Action est organisme de formation, certifié Calliope depuis peu.
Oui, très j'ai vu ça.
Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on a également des formations spécifiques pour les professionnels aussi, pour que dans ces pratiques au quotidien, on puisse mettre en place ces qualités-là et ces compétences-là, que ce soit aussi en entreprise, etc. Donc, pour que du coup, tous les acteurs et toutes les personnes puissent accéder en fait à ses compétences et à ses principes au niveau de la facilitation, entre autres.
Génial. Bah, écoute, j'ai ouvert votre site web. Je crois que le premier article, c'est 14 nouveaux arrivants chez Active Action, un truc comme ça.
Ça fait.
Donc, on voit que vous ne vous ennuyez pas. Est-ce que tu
non,
peux...
c'est vrai.
Ouais, j'ai cette impression. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on te... oh, voilà, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on trouve vous sur l'association ? C'est une association.
Alors on a, oui, c'est une association. Donc on a un site internet activeaction.org. Moi j'ai mon LinkedIn également. On peut me contacter très facilement.
Fabien Schmitt.
Fabien Schmitt avec deux T.
Avec deux T, c'est ça.
S C H M I deux T.
Tout à fait.
Et je peux mon adresse mail aussi, qui est très simple à retenir. Fabien@activeaction.org.
Avec un tiret Active Action ou Active Action ?
Non, tout attaché.
Tout attaché. Ok, super.
ACTIVACTION.
Ah bah génial. Bah écoute, je vais te poser mes trois dernières questions de fin de podcast avant de te laisser partir. Je voulais aussi dire que ouais, sur on a parlé d'un atelier, parce que c'est l'atelier que j'ai suivi et que j'aimais bien votre approche. Justement,
ah, encore, vraiment... c'est un module de formation que tu as suivi.
C'est un module de formation, ouais. C'est ça que j'ai suivi. Ouais. J'aime bien votre approche sur la posture, justement, voilà, de ce dont on a discuté, mais que vous avez, je ne sais pas combien, une dizaine d'ateliers ou de... Aujourd'hui.
Alors sur les formations, ce qu'on distingue en fait les deux, on a des ateliers de type Active Boost, Active Up, Active Jump, qui ont des objectifs bien spécifiques. Et ensuite, on a des programmes de formation sur la posture du facilitateur. On a une version qui est, j'ai envie de dire, une initiation et l'autre sur une formation plus avancée.
Okay.
Mais on a aussi sur comment animer des réunions et collectives et collaboratives. On a également sur le parcours de recrutement constructif et inclusif.
Oui, ça aussi, ça c'est...
Avec les entreprises.
Ça a l'air top.
Créer son atelier collaboratif idéal également. On a justement comment favoriser l'autonomisation d'un groupe. Donc, on a aujourd'hui pas mal d'aspects là-dessus. Et donc, sur notre LinkedIn, par exemple, il y a le catalogue de formation qui est disponible.
Génial. Bon, bah écoute, j'invite vraiment les gens à les regarder. Moi, j'adore ce que vous faites. Donc, inscrivez-vous, les yeux fermés, c'est top. En termes de ressources, tu nous as cité Daniel Goldman. Est-ce que tu voulais, je te demande toujours, voilà, un livre que tu, conseilles ou que tu partages volontiers.
Alors, notamment au début sur un peu la facilitation, etc., c'est de comprendre un peu les mécanismes de groupe. Et en termes d'initiation, il y a un livre qui s'appelle tout basiquement, j'ai envie de dire, Le groupe en psychologie sociale.
D'accord.
De Dominique Oberlé et Verena Ebischer, qui est très intéressant. en fait, très, très simple à lire aussi, et qui pose les bases en fait du fonctionnement en fait d'un groupe et des mécanismes qui peut y avoir en fait dans un groupe, les mécanismes aussi de mimétisme, d'influence, etc. Donc, ce qui est assez super intéressant, notamment sur les thématiques en lien avec la facilitation.
Génial, top. Je notais, je ne connais pas, donc je vais jeter un coup d'œil. Est-ce que tu as une valeur qui te porte, la valeur qui te porte ce travail?
Il y en a plusieurs.
Une idée centrale. Ton pourquoi?
Mon pourquoi. Mon pourquoi, alors c'est un verbe que j'aime bien, qui est oser. Oser faire les choses. Parce qu'il y a vraiment que de l'apprentissage derrière, et je pense qu'on peut tout oser aujourd'hui, et je trouve que c'est une grande chance.
Génial, super, merci beaucoup, c'est, ça fait du bien à entendre, c'est cool. Et la troisième question, elle est un peu plus difficile. Est-ce que tu as une définition, ta définition de l'intelligence collective?
Alors, très bonne question, parce qu'il y a plein de définitions aujourd'hui, même quand on lit un peu les études, etc. Mais ma définition, c'est que mon approche, entre guillemets, la manière dont je vois les choses. Mais je dirais que l'intelligence collective, c'est la mise en commun aussi de ressources, de connaissances et d'expériences au profit d'une créativité en fait de groupe. Et donc du coup qui permet de d'aller au-delà de tous les freins et les obstacles qu'on peut avoir. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant en fait aujourd'hui, l'intelligence collective, une véritable intelligence collective, quand on utilise justement des notions de neutralité, d'objectivité, etc. Je trouve que c'est extrêmement puissant en fait, quand on ose aussi partager, quand on ose aussi faire confiance. Je trouve que l'intelligence collective est peut-être une richesse incroyable.
Génial. Du coup, un vrai lien avec ce pourquoi ou cette valeur qui t'habite et qui te met en mouvement, j'ai envie de dire.
Ouais, complètement.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. C'était super intéressant. J'espère te revoir un de ces jours à Strasbourg ou ailleurs. Et puis je te souhaite vraiment je vous suis sur les réseaux et cette croissance elle fait plaisir à voir, parce que je pense que le projet est top et c'est chouette de vous voir grandir vite, j'ai l'impression, mais en tout cas bravo à vous.
Merci beaucoup,
à bientôt Fabien.
À bientôt,
salut. Comme on dit chez nous, dank Phil Moul pour cette belle interview Fabien. Si vous, chers auditeurs, êtes toujours là, je me dis que vous avez vous aussi apprécié cet échange. N'hésitez pas à me le faire savoir. Vos retours sont précieux pour moi. Ils me motivent à continuer. À très vite. Ciao, ciao.